ce fut à Versailles, parmi les feux de Bengale, de l'île enchantée, que la reine mère sentit les premières morsures du cancer qui devait l'emporter. Paris suivit avec chagrin la marche de son mal. Anne d'Autriche était redevenue populaire depuis qu'elle n'était plus rien.
« Elle conserve l'union !»
écrivait d'Ormesson.
« Et, quoiqu'elle n'ait aucun crédit pour faire du bien, elle empêche, à ce qu'on croit, beaucoup de mal. »
5 juin 1665. On savait que la cour de France lui devait d'avoir gardé une certaine décence, que, sans elle, Louis XIV et sa belle-sœur Henriette ne se seraient peut-être pas aperçus à temps qu'ils allaient s'aimer trop, qu'ils s'aimaient déjà trop, et que cela faisait
beaucoup de bruit à la cour.
La reine-mère avait forcé de s'ouvrir des yeux qui voulaient rester fermés. Elle avait parlé sans ménagement, et sa rudesse avait peut-être épargné à la royauté française une souillure ineffaçable. Ce sont des services que les honnêtes gens n'oublient point. À la reconnaissance venait s'ajouter une admiration sincère pour son courage devant la souffrance. Elle endura sans une plainte, avec une tranquillité incroyable, 9 de douleurs aiguës, arrivées encore par les remèdes barbares d'un défilé d'empirique. Dans la famille royale, les sentiments étaient mélangés. Louis XIV, Madame de Motteville, l'avait bien remarqué. C'était un homme plein de contrariété. Il chérissait sa mère. Pendant une première maladie, un peu avant le cancer, il l'avait soignée jour et nuit, avec un dévouement et aussi une adresse dont les assistants s'étaient émerveillés. L'idée de la perdre lui donnait à présent des crises de sanglots à l'étouffer. En même temps, sa mère devenait de trop. Elle le gênait par sa clairvoyance. Il éprouvait un soulagement dont il ne se rendait sûrement pas compte, mais qui n'échappait pas aux observateurs. En voyant approcher le moment où elle ne serait plus là pour le regarder vivre. Lorsqu'elle fut à l'agonie, l'affection emporta tout et le roi faillit s'évanouir. Elle était à peine enterrée que le plaisir de se sentir libre prenait le dessus. L'attachement de monsieur pour sa mère était ce qu'il y avait de meilleur en lui. Son chagrin fut sans arrière-pensée et se traduisit par le besoin d'être toujours avec elle.
« C'était une telle puanteur !»
rapporte mademoiselle,
« que l'on ne pouvait quasi souper après l'avoir vu penser. »
Monsieur passait son temps dans cette chambre et ne savait qu'inventer pour montrer sa tendresse. Il tombait quelquefois sur des idées ridicules, mais il était touchant quand même par sa sincérité et ses larmes intarissables. Anne d'Autriche finissait par le renvoyer. Monsieur retournait alors à ses plaisirs et s'y oubliait. Il n'aurait pas été lui s'il avait agi autrement. À l'approche de la fin, il ne se laissa plus renvoyer. Par personne, tout craintif et tout soumis qu'il fût, le roi s'était retiré obéissant à l'usage qui interdisait au prince, comme jadis au dieu, de voir mourir. Il fit dire par 2 à son frère de ne pas rester là et en reçut pour réponse qu'il ne lui pouvait obéir en cela. Mais qu'il lui promettait que c'était la seule chose en quoi il lui désobéirait de sa vie. Ce fut par un cri de monsieur qui perça les murailles que Louis XIV apprit que sa mère était morte. La jeune reine, Marie-Thérèse, qui perdait tout, justifia la réputation de
« bêtise »
que la cour lui avait faite. Elle se laissa persuader que son rôle allait grandir de tout celui de la reine-mère et fut plus qu'à demi consolée par cette chimère. Mademoiselle observa scrupuleusement les bienséances. C'est tout ce que l'on peut dire. Anne d'Autriche avait souligné de son côté, dans une heure solennelle, la ténacité de sa rancune contre sa nièce. La veille de sa mort, elle fit ses adieux aux siens. Deux seulement parurent oubliés.
« Je fus étonnée, »
raconte mademoiselle,
qu'elle ne dit pas un mot à monsieur le prince, ni à moi, qui étions là, après tout ce qui s'était passé, et particulièrement à moi, qui ai toujours été nourrie auprès d'elle.
C'était justement à cause de
tout ce qui s'était passé.
Anne d'Autriche donnait le bon exemple au roi. Elle expirait sans avoir pardonné aux frondeurs. De grands changements suivirent sa mort. Louis XIV avait perdu sa mère le 20 janvier 1666. Le 27, une députation du Parlement vint
faire les compliments au roi.
D'Ormesson en était.
« Je fus après, »
dit son journal,
« à la messe du roi. » Où était la reine, monsieur le dauphin, monsieur et mademoiselle de la Vallière, que la reine a prise auprès d'elle par complaisance pour le roi. En quoi elle est fort sage.
Louis XIV présentait officiellement sa maîtresse à son peuple et lui assignait son rang dans l'État, immédiatement au-dessus de l'épouse légitime. Il n'aurait pas osé du vivant de sa mère. Deux mois plus tard, il était délivré de
la cabale des dévots
et de ses observations importunes par la disparition de la Compagnie du Saint-Sacrement. Il ne paraît pas impossible que la mort de la reine-mère ait à tout le moins athée. Cet événement, Anne d'Autriche connaissait la société de longue date et lui avait témoigné pendant bien des années un dévouement absolu. Elle lui avait gardé le secret, même avec Mazarin. Elle avait fait plus. On a la preuve qu'elle trompait son ministre pour la compagnie. La situation changea avec la mort du cardinal. Soit crainte de son fils, soit scrupule, rien n'autorise à penser qu'Anne d'Autriche ait trompé Louis XIV après Mazarin pour une société secrète. Recherchée activement par Colbert, qui devinait une puissance occulte derrière les adversaires de son pouvoir, la compagnie recourut à sa protectrice habituelle et eut l'amère déception de la solliciter en vain. Le dévouement d'Anne d'Autriche n'allait plus qu'à se taire. Aussi longtemps qu'elle fut de ce monde, tout espoir ne fut pas perdu. On pouvait la ramener et réussir mieux une autre fois. Sa mort compléta le désarroi. Depuis quelque temps, la société n'osait déjà presque plus se réunir. Privée de la mère du roi, on dirait qu'elle s'abandonne. Elle se dissout. Elle en a l'air. Ses registres s'arrêtent au 8 avril 1666. La suite des procès-verbaux a-t-elle été détruite ou égarée? Avait-on renoncé par prudence à toutes les écritures? Les suppositions sont libres. Il en est jusqu'à nouvel ordre de la mystérieuse confrérie comme de ces cours d'eau qui disparaissent sous terre. on perd leurs traces. Il arrive même qu'on ne les reconnaît plus et qu'on leur donne un autre nom. Lorsqu'ils ressortent à la surface, tel, sans doute, a été le sort de la Compagnie du Saint-Sacrement, car l'esprit sectaire, qui était sa marque, ne perd jamais ses droits dans notre pays. Nous le voyons, de nos jours encore, se mettre en France, au service des idées les plus diverses. Dans ce même commencement d'avril 1666, où la cabale des dévots s'était avouée vaincue, la cour fut frappée de l'animation du roi. « On fit, écrivait mademoiselle, un voyage à Mouchy où on fut 3 jours pour une revue. Le roi y fit venir quantité de troupes. Il y vint beaucoup de dames. On était en juste au corps de deuil. » On se divertit fort bien. Le roi était d'une grande gaieté. Il fit des chansons pendant le chemin. Louis XIV n'avait pas fait beaucoup de chansons dans sa vie, bien que celles-là n'aient pas été les seules. Il jouissait de se sentir débarrassé des ennuyeux qui avaient abusé du patronage de sa mère pour s'ériger en censeur de leur souverain. Personne ne s'occupait plus de ses péchés en dehors de son confesseur et de ses prédicateurs. Quand les prédicateurs s'appelaient Bossuet ou Bourdaloue, ils ne le ménageaient guère. Mais Louis XIV le supportait. C'était leur métier. Et les chrétiens d'alors, même les mauvais, connaissent leur devoir de chrétiens et baissent le front devant la chair. Bossuet s'écriait en présence de toute la cour que « les mauvaises mœurs sont toujours les mauvaises mœurs et qu'il y a un Dieu dans le ciel qui venge les péchés des peuples, mais surtout qui venge les péchés des rois. » Il lançait des apostrophes à l'adresse de Mademoiselle de la Vallière. « Ô créature, idole honteuse, retirez-vous de ce cœur, ombre, fantôme, dissipez-vous en présence de la vérité. Voilà l'amour véritable qui veut entrer dans ce cœur. Amour faux, amour trompeur, veux-tu te tenir devant lui ?» Bourdaloue, qui trouvait Madame de Montespan à la place de la Vallière, reprochait au roi ses débauches et lui demandait en plein sermon s'il avait tenu ses promesses de rupture. « N'avez-vous plus revu cette personne ? Écueil de votre fermeté et de votre constance, n'avez-vous plus recherché des occasions si dangereuses pour vous ?» Madame de Sévigné alla un jour l'entendre à Saint-Germain, où il prêchait un carême devant le roi et la reine. Elle en revint confondue et transportée de sa hardiesse. « Nous entendîmes, après dîner, le sermon du Bourdaloue, qui frappe toujours comme un sourd, disant des vérités à bride abattue, parlant contre l'adultère, à tort et à travers, sauf qui peut. Il va toujours son chemin. » Louis XIV acceptait ses reproches publics. Il n'en était ensuite ni plus ni moins. La mort de la reine-mère avait encore eu pour effet, en suscitant 20 rivales à la Vallière, de grossir la clientèle aristocratique des charlatans et alchimistes, devineresses, sorcières et empoisonneuses qui jouaient un si grand rôle dans la vie amoureuse de la société la plus polie du monde. La magie comptait alors parmi les industries parisiennes les plus florissantes. Les habitants des rues écartées ou des faubourgs étaient accoutumés aux mouvements qui se produisaient de grand matin ou le soir, à la brune. Autour de certaines maisons isolées, des gens de toutes mines, à pied, en carrosse ou en chaise, les femmes masquées ou emmitouflées, se succédaient devant une porte close, qui ne s'ouvrait que sur un signal particulier. L'état d'esprit qui amenait cette foule chez la devineresse était répandu dans toutes les classes de la société, des plus basses aux plus hautes. La crédulité publique traversait une période d'épanouissement qui jurait avec la splendeur intellectuelle de la France d'alors et dont ne s'étonneront pourtant que ceux qui croient aux formules simples en histoire. Deux de nos grands classiques ont laissé des pages qui témoignent de la grandeur du mal, dans ce même moment où notre pays prenait la tête de l'Europe. Molière s'est moqué des sciences occultes et de leurs adeptes, tout au long d'une pièce, ou plutôt d'un livre de ballet, qu'il écrivit pour le roi en 1670. Et qui s'appelle, comme on sait, « Les amants magnifiques ». Les personnages y sont divisés en deux camps, d'après une règle de sa façon, fort impertinente pour les grands de ce monde. Molière les avantage quant à la bêtise. Il lui suffit que ses héros soient illustres par le rang et la naissance. Pour les doter d'une foi aveugle à tous les grimoires.
« La vérité de l'astrologie, »
dit le prince Iphicrate,
« est une chose incontestable et il n'y a personne qui puisse disputer contre la certitude de ses prédictions. »
C'est aussi l'avis du prince Timoclès.
« Je suis assez incrédule pour la quantité de choses, mais pour ce qui est de l'astrologie, il n'y a rien de plus sûr et de plus constant que le succès des horoscopes. Quel tir !»
La princesse Aristione est de la même opinion et s'inquiète de trouver sa fille moins convaincue. C'est un commencement de libertinage d'esprit et l'on ne sait pas où cela peut vous mener.
« Ma fille, »
lui dit-elle,
« vous avez une petite incrédulité qui ne vous quitte point. »
L'athéisme en astrologie et en sorcellerie est représenté dans la pièce par Molière, qui s'est mis en scène sous le nom de
Clitidas, plaisant de cour.
Et par un autre personnage de naissance obscure,
Socrate, général damné,
qui prend le parti de Clitidas contre les prophètes en chambre et autres exploiteurs de la sottise humaine.
« Il n'est rien de plus agréable,
dit-il,
que toutes les grandes promesses de ses connaissances sublimes, transformer tout en or, faire vivre éternellement, guérir par des paroles, se faire aimer, de qui l'on veut, savoir tous les secrets de l'avenir, faire descendre, comme on veut, du ciel sur des métaux, des impressions de bonheur, commander aux démons, se faire des armées invisibles et des soldats invulnérables. Tout cela est charmant, sans doute, et il y a des gens qui n'ont aucune peine à en comprendre la possibilité. Cela leur est le plus aisé du monde à concevoir. Mais pour moi, je vous avoue que mon esprit grossier a quelque peine à le comprendre et à le croire. »
La Fontaine a traité le même sujet dans trois de ses fables. Il en est une, Les Devineresses, publiée en 1678. Avant le fameux drame des poissons. Par conséquent, où il se montre très renseigné sur ce que la police n'avait pas encore su voir. Il connaissait à merveille l'existence de poudre de succession et de poudre pour l'amour. Une femme à Paris, faisait la pythonisse. On l'allait consulter sur chaque événement. Perdait-on un chiffon? Avait-on un amant? Un mari vivant trop, au gré de son épouse, une mère fâcheuse, une femme jalouse. Chez la devineuse, on courait pour se faire annoncer ce que l'on désirait. L'avertissement ne fut pas remarqué et il fallut la chambre ardente de 1680 pour faire comprendre aux honnêtes gens que la devineuse se doublait le plus souvent d'une marchande de poison. Mais La Fontaine n'avait rien appris à personne sur la confiance qu'elle savait inspirer. La chose était bien connue. Cette dangereuse vengeance, que l'on a déjà entrevue à l'occasion des premières poursuites contre le sage et Mariette, mérite quelques détails. Elle fut mêlée à Paris pendant une vingtaine d'années à tant d'intrigues et à tant de crimes qu'elle exerça une réelle influence sur la moralité du monde parisien et par là sur les affaires de la cour.